Et maintenant, un bon boîte de casse.
Et toujours, Essen 2007, Spiel 2007, où cette fois-ci, on rencontre Cyril de Magde, le fondateur de la société d'édition Istari. Et Istari a explosé en très peu de temps avec des jeux comme Keylus, Is, et maintenant on sort un nouveau jeu qui s'appelle Amitis, en plus d'une gamme qui s'appelle Istari Plus, dont Cyril de Magde nous décrit la teneur tout de suite. Une bonne écoute et à très bientôt.
Voilà, et hop, on saute sur le stand Istari où je suis. J'ai le bonheur d'être en face de Cyril de Magde et on dit bonjour Cyril de Magde.
Bonjour.
Voilà, ça c'est fait. Bon, Istari, c'est une société d'édition qui est devenue incontournable. Hein, on vient de le voir d'ailleurs, avec quelqu'un qui passe et qui félicite Cyril pour sa politique d'édition, donc c'est quand même super, super sympa. Est-ce qu'on peut retracer un peu ce que c'est Istari et pourquoi, où est-ce qu'on en est maintenant?
Eh ben, c'est facile parce que ça a commencé ici, en fait, à Essen, il y a quelques années. En fait, j'avais décidé de me lancer. À la base, c'était une société d'informatique et j'ai décidé de me lancer dans le jeu. Et donc, c'est comme ça qu'un prototype que j'avais depuis quelques années, je me suis dit, bon, plutôt que de le faire publier par quelqu'un, je vais essayer de le publier par moi-même pour voir. J'ai donc partagé un petit stand de 2 mètres carrés avec Ferti qui avait les mètres carrés restants. Et ma foi, j'ai vendu mes quelques copies que j'avais. Et
ça, c'était quoi ?
C'était Is. Ça s'est plutôt bien passé. Et donc, ça m'a donné envie d'y regoûter. Et l'année d'après, on avait un autre jeu qui s'appelait Keylus, ce qui nous a bien aidé à continuer. D'autant qu'entre-temps, je m'étais dit que le point faible, malgré tout, d'être un petit éditeur, c'était la distribution et que j'ai contacté pas mal de distributeurs à l'étranger et trouvé quelques contrats intéressants pour le sortir en plusieurs langues.
C'est ça. Voilà. Donc, Keylus est effectivement devenu un classique assez rapidement. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
Parce que
c'est un peu prétentieux d'expliquer pourquoi, mais il y a peut-être une idée quand même.
Ah, j'ai une réponse assez prétentieuse, mais bon, parce que c'est un bon jeu.
Non, ça, c'est fait.
Non, mais en fait, je crois que c'était le bon jeu au bon moment, dans le sens où c'est arrivé. Là, par exemple, on est sur un Essen assez riche en gros jeux, assez riche en gros jeux de qualité. L'année où est arrivé Keylus, on était plutôt dans le creux de la vague en matière de gros jeux. C'est-à-dire qu'il y avait des très très gros jeux, c'est-à-dire qui durent 8 heures, 10 heures, etc. Des jeux très légers dans la lignée aventuriers du rail, etc. Je ne parle pas des aventuriers du rail, mais des jeux qu'ont généré les aventuriers du rail. Et curieusement, assez peu de gros jeux, juste gros, qui jouent en 2 heures sur le marché. Et Keylus est arrivé juste à ce moment-là, avec quelques principes qui ont bien plu. Et donc, c'est devenu assez rapidement un classique parce qu'il y a eu un buzz. Essen peut parfois générer ce genre de buzz sur certains jeux. On a eu de la chance d'en bénéficier. Et le truc, c'est que par la suite, quand le jeu est sorti d'Essen, le buzz n'a pas été détrompé par le public. Donc, ça a permis d'amplifier le phénomène, en fait.
Le phénomène a été amplifié à un point que cette fois-ci, en 2007, on a une version collector. Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce qu'on est passé du Keylus à cette version ?
Par hasard. En fait, c'est simple. À un moment donné, Mike Doyle, qui est un gars qui fait du design en général, m'a dit « Bonjour, je m'appelle Mike Doyle, je fais du design de boîte. Et pour m'amuser, j'ai refait Keylus. Voilà quelques images. »
Il avait déjà fait ?
Ouais, pas entièrement, mais il a dit « Voilà, j'ai des idées, c'est comme ça et tout ça. » Et moi, ça fait bing dans ma tête. J'ai dit « Tiens, mais bon, pourquoi on le ferait pas ?» Évidemment, pas définitivement, mais comme une édition limitée, parce que je voulais pas non plus. Je pense que son design est très bien, mais ça ne montre pas que c'est un jeu, c'est plus comme un livre, etc. Et donc, je pense que la bonne manière de le faire, c'était une édition limitée. Et là, j'ai commencé à me dire, tiens, mais pourquoi on ne ferait pas des vrais deniers ? Tiens, mais pourquoi on ne mettrait pas plutôt ça à l'intérieur, etc. Et bon, ma foi, on a pu. Voilà comment c'est arrivé.
Donc du design de boîte proposé, on est passé à en fait une, on va dire une réédition avec une, on va pas dire une amélioration, mais un changement du matériel qui a fait ce que c'est maintenant.
Oui, disons que je pense que les deux éditions ont leurs avantages. Bon, celle-là est limitée de toute façon, donc elle restera pas dans le temps, mais il est clair qu'elle est plus artistique que pratique à jouer, là où l'ancienne, on avait joué avant tout. Par exemple, le décor du fond était volontiers peu travaillé, de manière à pas venir perturber la lecture des tuiles, etc., etc. Le genre de choses dont qu'on pense, que Mike Doyle, qui fait lui du design artistique, n'a pas vraiment en tête. Cela dit, on a testé le jeu l'autre jour, on pense qu'il est parfaitement jouable quand même.
J'espère, parce que je l'ai acheté.
Donc, mais c'est une édition, on a voulu se faire plaisir, quoi. Donc, Mon souhait premier aurait été de le faire un peu moins cher, mais bon, les pièces en métal, ce genre de choses, on fait que le prix a monté au-delà des limites qu'on s'était un petit peu imposées au départ. Et bah à la fin, voilà, on se retrouve. Mais bon, malgré tout, on est content parce que le résultat est tout de même graphiquement...
C'est très joli et j'irais même plus. L'idée, moi, d'utiliser ce jeu-là pour montrer à mes enfants ce qu'était le Moyen-Âge, c'est un bon départ, moi, je trouve.
Oui, parce que c'était vraiment notre point de vue. Dès le moment où on a dit qu'on se lançait là-dedans, on s'est dit, OK, donc on va faire une édition full médiévale, c'est-à-dire vraiment... Avec des tuiles, avec des looks tapisserie un petit peu, avec vraiment tout le décor qui donne vraiment médiéval, avec les pièces qui sont des vraies pièces de l'époque de Philippe le Bel, légèrement arrangées pour ne pas sembler être des contrefaçons. Mais donc c'est là qu'on a vraiment décidé. C'est pour ça qu'il y a toutes les bourses à l'intérieur, etc. On a vraiment voulu donner le look médiéval le plus possible, y compris dans la règle.
Oui, tout à fait. C'est réussi. Bien, ben ça, c'est un peu le cycle Caylus. Est-ce que Caylus a encore une suite ?
Ben, on a un plateau géant en 3D, mais je doute qu'on arrive à le produire un jour. Catane l'a fait pour les 25 ans ou Dieu sait quoi. Bon, peut-être qu'on y arrivera, mais en fait, c'est une blague. N'y croyez pas.
Ok. Et l'actualité de Essen 2007 pour Istari, à part cette merveilleuse édition limitée, c'est un nouveau jeu.
Amitis. En fait, c'est même trois nouveaux jeux. Deux qui sont des coproductions, mais surtout notre nouveau jeu qui est Amitis, effectivement. Où on renoue un peu avec grand plaisir au jeu de gestion un petit peu. Après s'être un peu calmé avec Mikerinos qui était plus léger et Isparan qui était plus léger. Donc on rassure les gamers, on est toujours là. Simplement ça a mis plus de temps à être développé parce que bah, c'est mon jeu et que j'ai moins de temps maintenant puisque les activités d'édition me prennent du temps. Donc on a voulu être sûr de le relâcher qu'au moment où il était vraiment parfaitement réglé, etc. Donc ça a pris 2 ans. Et donc voilà, c'est notre grosse actualité du moment. C'est un jeu dont je ne peux pas dire qu'il est bon car je manque totalement d'objectivité, mais je peux dire qu'il est bien réglé, qu'il est très. On m'a dit qu'il était très istarien, donc j'accepte.
Est-ce qu'on sait ce que c'est ça, être istarien ?
Je sais pas. C'est les petits cubes en bois, c'est les petits choix cruciaux, c'est plein de possibilités possibles pour marquer des points. Voilà.
Tu crois que c'est ça l'image d'Istari ? En disant c'est les jeux d'Istari, c'est ça, cette image-là plutôt ?
Je sais pas, mais pour moi c'est quelque chose d'assez bizarre parce que finalement quand je prends Ispahan, c'est un jeu qui n'est pas de nous. Pourtant on me dit Amitis, il est vraiment dans la lignée d'Ispahan. Alors que bon, Sébastien est un très bon ami, mais avant qu'il me présente Ispahan, je ne le connaissais absolument pas. Le jeu est à 95% comme il l'a créé, donc on n'a fait qu'ajouter des petites touches par-ci par-là, très légères. Peut-être aussi que c'est parce qu'il y a le logo sur les boîtes que les gens se disent c'est très Istari. Mais peut-être aussi simplement que j'ai aimé Ispahan parce que, sans m'en rendre compte, il était très Istari aussi. Mais pour moi, ils sont très différents, mais je ne sais pas. À vrai dire, je suis sûrement pas le meilleur juge, je suis trop impliqué à l'intérieur d'Istari.
On a le nez dans le guidon, on voit pas toujours la route. Mais en gros, le mécanisme d'Amitis,
c'est simple. Déjà, il faut construire les jardins suspendus de Babylone.
Ce qui n'est pas rien.
Surtout qu'on n'est même pas sûr qu'ils aient vraiment existé, mais bon, bref. Et pour cela, il va falloir... C'est un jeu de recrutement. Il va falloir recruter des gens et aussi acheter des plantes, les deux choses en parallèle. Pour recruter des gens, on a un système de recrutement, donc, où certaines cartes vont coûter plus cher que d'autres, etc., parmi différentes professions. Donc, on va pouvoir, par exemple, acheter des marchands qui vont donner des chameaux, ou on va pouvoir irriguer, ou on va pouvoir trouver des ressources, etc., et bouger la caravane. On a une caravane qui est contrôlée par tous les joueurs et qui se déplace de ville en ville. Et dans certaines villes, on va y vendre des plantes et dans d'autres villes, on va y vendre des améliorations. Et c'est un jeu où il va falloir se mettre au bon tempo pour avoir la bonne ressource au bon moment pour l'échanger dans la bonne ville, avoir la plante qu'il faut et la mettre à l'endroit où on avait choisi parce que ça a été bien irrigué et donc marqué des points. C'est un jeu qui est entièrement basé sur le tempo, qui est d'ailleurs très interactif de ce point de vue-là parce qu'il faut vraiment surveiller ce que font les adversaires, deviner leurs intentions et essayer d'en tirer profit.
C'est tentant, effectivement. On parlait d'actualité. En fait, c'est trois jeux. Donc, on parlait d'Amitis. Les deux autres, c'est quoi ?
Alors, les deux autres, c'est une nouvelle gamme en fait qu'on lance qui s'appelle Istari Plus. Pourquoi ? Parce que c'est de la coédition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits éditeurs, parce que je me considère comme un petit éditeur malgré tout, qui se réunissent et chacun sort le jeu dans son pays avec sa langue. Bon, c'est pas totalement des petits éditeurs, puisque par exemple Price Force the Galaxy, c'est avec Rio Grande, qui est quand même un assez grand éditeur aux États-Unis. Mais donc on a deux jeux, Race Force the Galaxy, qui est une sorte de jeu qui a été basé, on va dire, sur San Juan, puisqu'il faut savoir que l'auteur de Race Force the Galaxy, Tom Lehman, a contribué, même s'il n'est pas crédité sur la boîte, mais il est crédité dans les règles, à développer San Juan. Donc il a continué à exploiter l'idée pendant un certain temps, et il l'a mélangé avec un jeu de cartes à collectionner qu'il avait fait par le passé, et il a sorti un jeu de cartes qui n'est plus à collectionner, qui s'appelle Race Force the Galaxy, qui serait une sorte de San Juan avancé. La différence principale étant que les rôles ne sont plus choisis à chacun son tour, mais simultanément, et où l'interaction du coup devient différente, puisqu'il faut essayer de deviner ce que vont prendre les autres comme rôle pour essayer d'en tirer profit et construire sa civilisation galactique. Alors il y a beaucoup de cartes avec des interactions, des combos, c'est un jeu très très intéressant. L'autre jeu, c'est Tycoon, ça s'appelle El Capitan, c'est la réédition de Tycoon en fait. Réédition avec quelques améliorations de réglage et surtout des graphismes bien meilleurs. C'est un jeu de Wolfgang Kramer, donc un auteur on ne peut plus classique. Le jeu à l'époque était très années 80 dans son graphisme, où on était un businessman qui allait de pays en pays pour monter des chaînes d'hôtels. Maintenant on est un marchand au Moyen-Âge et on va de port en port pour y installer ses comptoirs. Donc c'est un petit jeu de majorité très kramerien avec des graphismes de McDoyle également et qui sont assez superbes. Et donc voilà, on va voir ce que peut donner cette politique de coédition. En attendant, une chose est sûre, c'est que ça permet d'avoir les jeux en temps réel en français, en même temps qu'ils sortent en allemand ou en américain, et d'obtenir des prix raisonnables pour ces jeux, parce que normalement, évidemment, la France, par exemple, est un marché limité. On ne peut pas dire, tiens, j'imprime juste 2000 jeux, sinon ils seraient à 50 euros. Donc, comme ce n'est pas possible, avec cette politique-là, on va pouvoir sortir les jeux à un prix raisonnable et les donner tout de suite à la vente disponible en France. Et c'est un peu la philosophie de la gamme Hystérie Plus.
Cette gamme-là, elle s'est constituée aussi par hasard, on va dire, au hasard des rencontres ou...
Oui et non, parce que en fait, je travaille avec Rio Grande, par exemple, depuis quand même plusieurs années maintenant, puisqu'il était avec mon partenaire sur Kellus. Et de fil en aiguille, c'était moi qui lui proposais les jeux pour les sortir aux États-Unis. Maintenant, c'est lui qui me propose ces jeux pour les sortir en France. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'on a pris un petit peu d'importance. Et surtout, moi, j'y vois vraiment l'opportunité de sortir des jeux qui me faisaient envie. On a fait d'autres petites choses comme Les Princes de Florence, etc. Ça permet de sortir les jeux dont on a envie et surtout de les donner directement en français, ça c'est très intéressant.
Effectivement, parce que c'est un peu entre guillemets le problème qu'on rencontre sur Essen, c'est on a envie d'acheter un jeu mais on sait même pas s'il va sortir en français. Donc là c'est peut-être un bon modèle.
Effectivement, bon, c'est un modèle qui se répand, je vais pas dire qu'on est révolutionnaire sur ce cas-là. Il est sûr que par exemple nos voisins Local Game, ils ont un excellent jeu qui s'appelle Agricola qui présente quand même 360 cartes en allemand, ça pose un problème. Et j'allais dire même Race Force the Galaxy, pratiquement du texte sur toutes les cartes, c'est quand même beaucoup plus simple de les avoir en français, il n'y a pas que des anglophones, et parfois même le jeu est carrément en allemand, et là c'est encore plus compliqué. Donc, et puis surtout c'est bien parce que souvent les éditeurs pourraient être frileux à l'idée de sortir le jeu, parce qu'ils savent que la base des fans qui achètent a déjà le jeu en anglais ou en allemand, et donc ça ne vaut plus le coup de faire le jeu en français. Là, avec cette politique-là, le jeu sort en même temps dans toutes les langues. Donc, j'allais dire, il y a toujours un risque, mais au moins, il est plus limité, parce qu'on suppose quand même que le français va par préférence acheter la boîte française.
Super. Et donc, l'actualité, elle est là, c'est trois boîtes. On a une idée du futur très proche, ou même lointain. Hein.
Oui, futur très proche, on a plusieurs jeux sur le grill. Un dont on ne parle pas pour l'instant mais qui est prêt à sortir d'un auteur assez connu.
Oui. Ce sera tout.
Français.
D'accord.
L'autre, il a déjà été dit des choses sur le net. Donc, c'est un jeu de Sébastien Pochon qui a été primé en tant que Oklahoma, qu'on va sortir sous un autre nom qui est encore en cours de débat. Certains ont dit Paris, peut-être même Métropolis, peut-être même encore autre chose. C'est un jeu où il faut... un petit jeu d'enchères où il faut construire des buildings avec un système très très ingénieux. Le jeu est très simple à expliquer, très simple à jouer, mais vraiment très profond parce qu'on peut faire vraiment des coups pendables. Et c'est vraiment du placement tactique très très intéressant. Et on espère le présenter à Nuremberg. Normalement, les feux sont au vert, mais bon, il faut un petit peu de temps malgré tout. Et ça, c'est le futur proche. Et après, futur plus lointain, on a juste quelques idées. Mais bon, je préfère pas en parler parce que rien n'est fait.
Une dernière question. Ispahan est passé en mode électronique ou online, on va dire. Comment est-ce que ça s'est passé, ça, le passage du jeu de plateau à la version online?
En fait, j'ai été contacté par, Gunther Rosenbaum qui avait fait la conversion de Saint-Pétersbourg. Il m'avait dit, je cherche un autre jeu qui serait à peu près dans le même temps de jeu, qui serait à peu près dans le même genre de fonctionnement pour le coder à plutôt rapidement. Et il me semble que Ispahan pourrait très bien faire l'affaire. Je lui ai dit, allons-y. Bon, il ne faut pas avoir peur quand on fait ce genre de choses, parce qu'il est sûr que de cette manière-là, Ispahan peut être joué en 10 minutes, on va dire. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des centaines de parties. Et que donc, il faut être à peu près sûr que son jeu n'a pas de faille. Donc, malgré tout, on se disait que ça pouvait être très intéressant pour les joueurs de le découvrir de cette façon, sachant que c'est du jeu solitaire et que rien ne remplace un vrai bon jeu sur plateau. Donc on a laissé faire quand même, et on n'a pas regretté, parce que je pense que ça a démontré que le jeu avait quand même une grande marge de rejouabilité, bien plus que beaucoup de jeux. Je dénonce d'ailleurs personne, mais il est clair que certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient plus de 200, 300, 400 parties. Moi, il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai même pas joué 5 fois. Donc il est clair que les nôtres, on les joue beaucoup forcément, mais pour des raisons de travail. Et c'est bien de savoir que Ispahan peut être joué 400 fois par certaines personnes sans que ceux-ci se lassent.
C'est un beau compliment, hein, mais un peu détourné, mais c'est vrai que c'est une belle conclusion, quoi. Eh bien, merci Cyril. Istari, on peut le retrouver où sur Internet?
Notre site web, istari.com.
Donc, tout simplement, avec un Y et un I à la fin.
Oui.
Voilà. Grand merci et à très bientôt, et bravo pour tout ça. Donc.
Merci, à bientôt à vous.
C'est vrai.
Ça a été